Professeur Houdet, peut-être en tant que patron de l'Institut français des apprentissages, vous allez peut-être nous apporter quelques réponses à ces questions complexes. Merci.
Merci beaucoup. Merci Claude Albert. Bonjour à tous. Je suis très honoré de votre invitation et des discussions que j'ai déjà pu avoir avec Monsieur le Ministre. En quelques mots, je n'ai pas eu énormément de temps pour préparer cette intervention, mais j'espère quand même pouvoir introduire des éléments qui seront essentiels pour votre réflexion. Je ne suis pas directement spécialiste de la pédagogie numérique, mais néanmoins des mécanismes cérébraux et cognitifs du développement de la construction de l'intelligence et des différentes formes d'intelligence du jeune enfant à l'âge adulte. Et il y a deux missions que j'exerce actuellement qui entrent en connexion avec la thématique de cette réunion. L'une à l'Académie des sciences qui s'appelle, et où participe également Elena, qui s'appelle Mon cerveau face aux écrans, sous la présidence de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui s'est saisi de l'idée que, effectivement, les enfants, les ados et les adultes sont très exposés en permanence à tout type d'écran pédagogique ou ludique, et qu'il faut une vraie réflexion sur les aspects positifs et négatifs de l'exposition aux écrans, et surtout à la meilleure pédagogie que l'on pourrait développer pour exploiter cette exposition pas permanente, mais quasi permanente, aux écrans numériques. Et par ailleurs, pour l'aspect, je dirais, plus africain de votre réunion, j'ai la chance de pouvoir, depuis quelques années, présider le groupe Avicenne à l'Académie des sciences. Vous connaissez peut-être ce groupe, qui est le groupe interacadémique pour le développement, qui réunit 21 académies de 21 pays euro-méditerranéens pour les stratégies éducatives et cognitives. Et là aussi, il y a un réseau formidable pour faire des initiatives de pédagogie numérique. Alors, quelques mots plutôt sur ce qui me paraît être les fondamentaux du développement neurocognitif de l'enfant, de l'apprentissage. Moi-même, instituteur de formation initiale, donc je suis très attaché au transfert, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dernière intervention qui vient d'être faite, au transfert des données de la recherche en psychologie expérimentale de l'apprentissage à l'école. Alors, ça ne doit pas être un transfert automatique, et il faut une humilité de la part des chercheurs à l'égard du monde de la pédagogie, mais on ne peut pas attendre des certitudes pour passer à l'action, sinon on n'agit pas souvent. Et il y a, comme vous le savez, eu beaucoup de transferts du monde des neurosciences vers la médecine. Il est très important qu'il y ait aussi des transferts du monde des neurosciences, et pas directement des neurosciences. Je pense qu'il faut passer par la psychologie cognitive et la psychologie développementale, vers le monde de l'éducation, mais pas du tout, j'irais violemment, avec au contraire une appropriation par les acteurs de l'éducation des découvertes qu'ils peuvent eux-mêmes décliner sur des difficultés qu'ils identifient dans les classes. Et c'est ce que l'on fait au quotidien avec des groupes de recherche, formation, action dans divers réseaux d'écoles. Alors, quelques mots. Vous avez peut-être vu passer ce numéro de la recherche du mois de novembre qui traite précisément de cette question qui s'appelle « Les neurosciences au service de la pédagogie » et où le dossier spécial y est consacré. Un élément parmi d'autres de cet intérêt, engouement actuel pour le lien entre les découvertes scientifiques sur le cerveau, sur les mécanismes d'apprentissage et l'usage qui pourrait en être fait à l'école. Alors, de façon plus fondamentale, je pense qu'il s'agisse de pédagogie numérique ou de pédagogie quelle qu'elle soit, l'essentiel est de comprendre que l'intelligence qui doit se construire chez l'enfant se décline en quatre principes fondamentaux qui sont énoncés sur cette sorte d'architecture cognitive, cette pyramide, et c'est tout aussi vrai en pédagogie numérique qu'ailleurs. La première chose, je vais prendre cet objet-là, c'est la permanence de l'objet. Si je vous montre cet objet et que je le fais disparaître derrière moi, il est évident pour vous qu'il continue d'exister. C'est la permanence de l'objet. Lorsque cette permanence de l'objet est établie, le cerveau de l'enfant et de l'adulte, pour le reste de sa vie, quantifie des objets, construction du nombre, donc traitement quantitatif de plusieurs objets physiques ou humains uniques et permanents, ou qualifie les objets, forme, couleur, fonction, c'est la catégorisation qui conduira aux taxonomies chez l'adulte, le nombre conduisant aux mathématiques. Et lorsque ces traitements qualitatifs et ou quantitatifs d'objets concrets physiques ou humains peuvent s'échapper du concret, s'en abstraire et porter sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, on accède au raisonnement. Et je pense qu'il faut bien toujours avoir à l'esprit ces grands principes fondamentaux, parce que quel que soit le support, haute technologie ou pas haute technologie, c'est ça qui doit se développer chez l'enfant pour qu'il devienne intelligent, l'objet, la catégorisation, le nombre et le raisonnement. Et si vous voulez, c'est transversal au contenu des apprentissages scolaires. Il y a des apprentissages, bien sûr, mais à travers cela, il faut développer ces notions. Et les découvertes actuelles de la psychologie de l'enfant indiquent qu'on a longtemps cru, avec des théories partiellement exactes et superbes, hein, comme celle de Piaget, que le développement de l'enfant est hiérarchique, linéaire, passant par grands stades, comme on monte les marches d'un escalier, qui correspond un peu aux différents niveaux du cursus scolaire. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que les choses sont beaucoup plus complexes, que le développement de cette architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, dans le cerveau de l'enfant, jusqu'à l'âge adulte, correspond plutôt au schéma de droite, c'est-à-dire un système dynamique non linéaire, où à tout âge, dans toute situation, le cerveau a simultanément plusieurs façons de résoudre un problème possible, qui sont symbolisées par ces vagues ou ces courbes, plusieurs stratégies cognitives, chaque courbe, chaque vague est une stratégie cognitive susceptible d'entrer en compétition. Et ce qu'il faut très souvent apprendre aux enfants, et en l'occurrence par une pédagogie numérique, c'est à sélectionner la bonne stratégie, et ça exige d'inhiber la stratégie dominante qui n'est pas toujours la plus pertinente pour activer une autre stratégie. Et ces fonctions d'inhibition et d'activation qui sont des mécanismes de contrôle cognitif que l'on peut apprendre à l'enfant, qui lui permet de gérer ce cerveau assez complexe avec différents réseaux neuronaux, différentes stratégies cognitives de catégorisation, de nombre, de raisonnement, qui entrent en compétition quand il apprend et qui peuvent créer des difficultés d'apprentissage, ces fonctions exécutives, elles se situent en mémoire de travail. Le petit modèle que vous avez en dessous avec les quatre carrés, c'est la mémoire de travail, cette partie du cerveau de l'enfant qui est mobilisée, par exemple, face à un tableau numérique, quand il doit résoudre un problème. Et en mémoire de travail, il y a des fonctions tout à fait cruciales du cortex préfrontal, donc la partie la plus avant élaborée de notre cerveau, qui sont des fonctions dites exécutives, où on apprend à contrôler l'exécution de ses actions, le choix de ses stratégies. Et l'une des fonctions exécutives qui me tient et qui tient particulièrement à cœur de mon équipe et d'autres équipes au monde, c'est l'inhibition, la première que vous voyez là, le I, qui va permettre de filtrer, de sélectionner une stratégie de raisonnement non pertinente ou une stratégie de catégorisation non pertinente pour ensuite, et c'est le dernier carré, activer parmi le potentiel de l'enfant une stratégie pertinente. Et donc ces fonctions dites exécutives, et c'est là où j'apporte une nuance par rapport à ce qui est dit juste avant l'exposé, on en a déjà testé des procédures pédagogiques dont on peut voir les effets sur le cerveau et que déjà dans les classes des écoles de France, des instituteurs, des professeurs des écoles ont utilisé pour lever des difficultés qu'ils ne parvenaient pas à lever autrement. Je vais vous donner quelques exemples en un temps assez limité. Je veux néanmoins préciser ces notions de fonctions exécutives. Il y en a trois. Premièrement, l'inhibition, c'est ce qui permet de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions, aux interférences. La deuxième, l'inhibition ne suffit pas, bien sûr, il ne suffit pas de bloquer les distracteurs, bloquer les stratégies inadéquates. Elle doit immédiatement être relayée par l'activation, ce qui crée dans le cerveau ce qu'on appelle le switching, la flexibilité, elle en est au cœur de l'intelligence, c'est-à-dire s'ajuster au changement par inhibition et activation, et le tout s'opérant en mémoire de travail. Et je pense qu'un tableau numérique ou une pédagogie numérique doit exercer à ses fonctions. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup, j'imagine, de mobilisation possible de sous-éléments d'informations, et il faut exercer, il faut apprendre à bloquer, il faut aussi qu'il y ait des parties qui soient tout à fait assurées, ici et maintenant. Mais ce qui est inhibé maintenant peut devoir être activé juste après et devenir pertinent. D'où cette notion de flexibilité. Alors, pour l'exemple du nombre, par exemple, on a pu explorer ça chez l'enfant, tant en comportemental qu'en imagerie cérébrale. Une petite tâche très simple qu'avait découverte Piaget et qui a fait le tour du monde. Si vous voyez au-dessus les alignements de jetons, si vous présentez sur un écran deux alignements de jetons de longueur égale et de nombre égal, tous les enfants du monde, s'ils ont deux boutons pour répondre, vont vous dire qu'il y en a le même nombre, pareil, au-dessus et en dessous de la ligne. Donc là, du point de vue de l'architecture cognitive, on est dans le traitement quantitatif d'objets uniques et permanents. Si sur l'écran, vous avez créé un programme qui fait que l'alignement du dessus s'écarte, donc devient plus long. Jusqu'à 6-7 ans, tous les enfants vont dire « Ah ben non, il n'y en a plus, pareil, en dessous, il y en a plus », alors que le nombre est strictement identique. Vous avez là un exemple de système dynamique non linéaire où dans le cerveau de l'enfant, à ce moment-là, on sait, c'est démontré par ailleurs, qu'il a les capacités mathématiques pour compter ce nombre de jetons, pour faire le double comptage, pour comparer et pour dire qu'il y en a pareil, mais il est incapable d'inhiber la réponse impulsive, l'heuristique, longueur égale nombre, qui est un apprentissage implicite qu'il a fait dans son environnement, sur les rayons des supermarchés, à type de produits égaux. Il n'y a pas besoin de compter. S'il y a un alignement plus long, on sait qu'il y en a plus. Dans toutes les classes des écoles ou dans les livres de maths pour petits, quand on apprend explicitement les nombres de 1 à 10, donc la symbolisation du nombre, on écrit 1, 2, 3, etc., jusqu'à 10. En général, ce sont des fruits ou des animaux, un éléphant, deux crocodiles, trois girafes. Donc, quand on fait un apprentissage explicite, le cerveau de l'enfant, comme le nôtre, je donnerai un exemple après pour l'adulte ou l'adolescent, le cerveau de l'enfant est un grand détecteur de régularités, et il détecte des régularités qui vont créer des stratégies, des réseaux neuronaux qui peuvent être dominants dans une tâche où ils ne sont pas pertinents, comme la tâche dite de conservation du nombre, qui quand même, et Piaget est toujours fort bien enseigné dans les UFM, qui quand même a fait le tour du monde, le tour des écoles, et qui a été la tâche critique pendant fort longtemps, et parfois encore maintenant, pour dire l'enfant n'a pas encore le concept de nombre. Voyez bien, il échoue, il dit qu'il y a plus de jetons là parce que c'est plus long. Il y a encore une construction à faire par rapport au nombre, comme on le découvre en explorant ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, mais il y a aussi, comme vous le voyez, et c'est une recherche qu'on vient de faire et de publier, qui fait l'objet du numéro spécial de la recherche de ce mois, on a pu regarder dans le cerveau des enfants, une grande cohorte d'enfants de la grande section de maternelle au CM2 qui ont participé à une expérience d'IRM, les régions qui allaient être recrutées quand l'enfant allait parvenir, corrélé au progrès cognitif, à comprendre qu'il devait inhiber une stratégie pour activer une autre, et donc bloquer longueur égale nombre, même si vous, comme l'enfant, on a envie de dire qu'il y en a plus dans l'alignement du dessous, mais il va dire non, il y en a pareil. Et à ce moment-là, vous avez non seulement, j'espère que vous voyez un peu, des régions qui se situent là, c'est-à-dire dans le cortex pariétal, le sillon intrapariétal, très connu pour être impliqué dans le nombre, dans le comptage, mais aussi toute une série de régions, c'est l'encadré violet, du cortex préfrontal, dont certaines très bien identifiées pour être impliquées dans ce contrôle inhibiteur. Donc ce qui vous montre que dans une tâche de nombre, pour être intelligent, il faut du nombre bien sûr, il faut savoir compter, mais il faut aussi et surtout, pour corriger les erreurs tardives, avoir cette fonction exécutive d'inhibition et d'activation de stratégies qui peuvent marcher, mais qui ne marchent pas là. Et le principe d'une heuristique dans le cerveau, par exemple longueur égale nombre, c'est une stratégie qui marche qu'on utilise tous, nous humains, parce qu'elle est très rapide, très efficace, elle marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et le cas que Piaget étudiait, très intéressant, c'est le mais pas toujours. Et c'est ça qu'on doit aussi apprendre aux enfants, à ne pas être démunis au moment où leurs automatismes ne fonctionnent pas. Donc il y a à la fois dans l'apprentissage une cristallisation qu'il faut faire, il faut apprendre des automatismes, il faut cristalliser que longueur est égale à nombre, mais en même temps il faut exercer l'enfant a une certaine fluidité, flexibilité, et cela peut se faire par les fonctions exécutives. Un autre exemple, qu'on n'aura pas le temps de faire ici, mais qui vaut pour l'adolescent et pour l'adulte, et qui vous montre que ça reste vrai chez l'adulte, si l'on présente une tâche de raisonnement, pour prendre un dernier exemple dans l'architecture cognitive, avec 12 formes géométriques colorées sur l'écran que vous avez sous les yeux, des carrés, des cercles et des losanges bleu, jaune, rouge ou vert, il y a deux cases à chaque fois de réponse, une case de gauche, une case de droite, et on, pardonnez-moi, vous avez déjà entendu ça 1000 fois, et on demande à l'individu, je pourrais vous le demander, de rendre la règle fausse, de sélectionner deux formes géométriques avec la souris, de les déplacer, de mettre une forme à gauche et une forme à droite, de telle sorte que la règle soit fausse, et la règle est, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il faut mettre un cercle jaune à droite. 90% des individus interrogés, y compris des polytechniciens, répondent carré rouge, cercle jaune. Je n'ai pas le temps d'analyser la situation. La réponse logique, l'algorithme logique, est tout sauf un carré rouge et tout sauf un cercle jaune, parce que falsifier une règle conditionnelle avec une négation dans l'antécédent exige que l'antécédent soit vrai, pas la forme initiale, donc pas un carré rouge, et le conséquent faux, pas un cercle jaune. Donc pour nous, c'est une tâche qu'on utilise comme critique chez l'ado et l'adulte, de la capacité à inhiber les éléments qui sont cités dans la règle, parce que carré rouge et cercle jaune sont perçus sur l'écran et sont cités dans la règle, et toujours le même cas de figure que tout à l'heure, mais c'est la dernière double flèche que vous voyez à droite, parce qu'on est tard dans le développement, on est chez l'adolescent et chez l'adulte, même si la logique s'est évidemment construite au cours de l'adolescence, comme l'avait bien décrit Piaget, une autre stratégie plus perceptive, qui en l'occurrence le raisonnement visio-spatial sur carré rouge, cercle jaune, va dominer dans notre cerveau. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe, mais de fait, vous voyez les deux cerveaux en haut, à gauche, c'est chez les mêmes individus. Donc c'est comment le cerveau d'un même individu va se reconfigurer avec entre les deux une pédagogie tout à fait particulière, un apprentissage qu'on peut lui faire. Le cerveau de gauche, vous voyez que c'est toute la partie arrière du cerveau qui est impliquée, c'est lorsque l'on répond carré rouge, cercle jaune. C'est-à-dire qu'on se laisse intuitivement guider par l'heuristique, dans ce cas, d'appariement perceptif. On reprend les éléments cités dans la règle. Alors on raisonne quand même. On se dit, il y a une négation quelque part, je dois rendre faux. Si j'apparie exactement, je vais aller contre la règle. Ce n'est pas le cas. Il fallait être capable d'inhiber ça pour aller rechercher en mémoire de travail une solution plus logique, plus nouvelle, plus flexible, mais de formes qui n'ont rien à voir avec celles qui sont citées. Et vous voyez, dans le cerveau de droite, chez les mêmes individus qui, entre les deux, ont eu un apprentissage, que je n'ai pas le temps de décrire, mais qui est dessiné sur les deux schémas en bas, on leur fait un apprentissage, on les remet dans la caméra. Tous ne réussissent pas, hein, parce que comme vous le savez, l'apprentissage est quelque chose de fragile, de délicat, pour lequel il faut les pédagogies les plus fines. Mais quand on leur apprend... Ah, magnifique. Je n'avais pas vu le petit tableau. Donc, je vais le faire avec le doigt, ça sera très bien. Merci. Quand on leur apprend dans une condition, et c'est là où... Voilà. Je peux écrire dessus, d'accord. Bon, très bien. Donc, quand on leur fait un apprentissage, alors ça se fait en classe, avec du papier, du crayon, ça peut se faire sur un tableau numérique, avec un système de hachures qui symbolise la mémoire de travail, qui se glisse. Donc, quand on fait un apprentissage de ce type-là, versus le même apprentissage sans la composante inhibitrice, on observe avec l'apprentissage exécutif à l'inhibition des individus qui échouaient au départ, ça c'est l'erreur de logique, carré rouge, cercle jaune, qui réussissent, pas tous, mais c'est statistiquement significatif, et on peut imaginer que pour certains, il faudra un apprentissage plus long, plus intense. Pour d'autres, cet apprentissage très intense-là et rapide suffit. Et chez ceux-là, et c'est ça qu'on a voulu observer, vous découvrez cette plasticité cérébrale qui font que les mêmes individus, à l'issue d'une pédagogie faite entre des humains, hein, ce n'est pas des neurosciences, déshumanisé. C'est une pédagogie faite par des humains, c'est même vygotskien, pour ceux d'entre vous qui seraient censés à la théorie de Vygotsky, c'est une interaction de tutelle. C'est du Vygotsky sur une tâche très logico-mathématique, donc très piagétienne. Chez ces individus-là, vous avez une reconfiguration de la partie postérieure à la partie antérieure, donc préfrontale du cerveau, qui, comme vous le voyez, nous, quand on l'a découverte, on l'a trouvée ainsi, je pense que c'est le cas, est assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'un même individu peut faire complètement bouger, basculer, voilà, veut basculer complètement son réseau cérébral dans la même tâche, ce qui se corrèle évidemment avec des choses qu'on peut mesurer très précisément. Quand ils sont là, ils donnent comme réponse carré bleu, losange vert, ça on le voit sur l'ordinateur, dans le fichier des réponses que l'on a, on mesure aussi leur temps de réaction en millisecondes, et quand ils donnent une réponse très perceptive, c'est toute la partie arrière, très connue, donc occipito-pariétal, occipito-temporal, donc toute la partie plus visio-spatiale, pour dire très rapidement, et la partie préfrontale qui soutient ces fonctions exécutives d'inhibition et d'activation, reprend en charge complètement différemment la tâche, quand, pas spontanément, quand il a appris. Et ce que je voudrais dire, c'est que si... c'est qu'on pourrait structurer la pédagogie numérique avec des indications comme celle-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il faut apprendre, où il faut répéter, où il faut cristalliser, où il faut automatiser, et il y a d'autres choses où il faut au contraire inhiber les automatismes, inhiber la cristallisation, et on peut tout à fait, là, à mon avis, ce n'est pas compliqué, c'est une question de conception, on peut tout à fait créer des situations expérimentales. Et c'est pas que numérique, hein. Nous on le fait dans les classes aussi, des petits groupes dès l'école maternelle, de papier-crayon, en individuel ou en collectif, et ils le font sur des filtres qui tracent eux-mêmes. Mais c'est particulièrement vrai pour le numérique. Et pour terminer, ben voilà, il y a l'exemple que vous avez sous les yeux. Ça, c'est ce qu'on fait déjà dans les classes, avec des groupes de recherche, formation, action. Et c'est là où je pense qu'il faut quand même pas attendre des décennies, d'être certain des résultats pour agir, parce qu'il y a des résultats qui sont très bien établis, d'autres non, il faut être extrêmement modeste, c'est le tout début des découvertes dans ce domaine, mais je puis vous dire que les professeurs des écoles, quand leur pédagogie marche bien, c'est parfait, mais ils butent sur certaines difficultés. Je prends un exemple, en maternelle, un professeur nous dit « j'essaye d'exercer la conscience phonologique, je dis aux enfants le mot « chapeau », on attend que le jeune enfant dise « bateau », pour la conscience phonologique, et quand on dit « chapeau », l'enfant dit « tête ». Et donc l'institutrice nous dit « mais ça marche bien avec votre affaire exécutive, parce que l'enfant ne parvient pas à inhiber l'association sémantique « chapeau-tête » ou « usuel », pour activer, quelque chose qu'il sait très bien faire par ailleurs, l'association phonologique. Et à partir d'exemples, et c'est comme ça, je pense, qu'il faut travailler, en tout cas, c'est comme ça qu'on le fait, et ça marche, que les profs des écoles, il ne faut rien leur imposer, il faut présenter, et tout, c'est quand même un public cultivé, intéressé, curieux, la science est de plus en plus diffusée, leur présenter les recherches, et qu'eux-mêmes, à partir des difficultés sur lesquelles ils butent dans leur pédagogie, se disent « est-ce que je pourrais débloquer, apprendre avec des dispositifs comme cela ?» Donc on fait depuis plusieurs années des groupes de recherche formation-action avec les inspections d'académie et les recteurs volontaires. Et dans les classes, où nous ne sommes pas, les professeurs des écoles essayent de décliner comme ils le veulent. Ça peut être en bricolant, en fabriquant, il faut une certaine liberté, créativité. Et après, évidemment, on fait des mises en commun, on se revoit. Et nous, ça peut même nous donner des idées d'expérience en laboratoire. Ce que l'on a fait à partir de situations identifiées par les profs des écoles, on resystématise en labo et on en fait une expérience de laboratoire. Il y a une équipe canadienne, celle d'Adèle Diamond, qui fait des travaux magnifiques dans le même esprit que les nôtres, et nous sommes évidemment en contact. Donc, par ailleurs, vous savez aussi aujourd'hui qu'on a ces technologies tout à fait extraordinaires d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et anatomique, qui ont déjà été évoquées tout à l'heure. Là, par exemple, vous avez la photo de la cohorte d'enfants qui a participé à cette recherche dans toutes les règles éthiques prescrites, mais de façon très ludique, on prépare les enfants dans les écoles très longuement. Les enfants veulent revenir quand ils ont passé, parce que ça se passe bien. Ça, c'est le travail des psychologues, de l'enfant et des cliniciens, de bien préparer les enfants à tout cela. Et ça crée à l'école et dès l'école maternelle des débats épistémologiques. Les enfants reviennent en classe, des profs des écoles nous ont dit qu'on expérimente le mercredi, le jour où les enfants ne vont pas à l'école, ils viennent au laboratoire. Et dès la grande section de maternelle, des profs nous disent qu'on a eu des débats de philosophie. Les enfants qui parlaient des rapports entre esprit-cerveau, il sert à quoi ton cerveau? Alors pour certains, bon, il faut le cerveau pour faire du calcul, mais pas pour faire du foot, parce que le foot c'est facile, mais le calcul c'est difficile. Et puis d'autres ne sont pas d'accord, non, il faut le cerveau pour tout. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre l'école secondaire ni les études universitaires pour parler du cerveau, pour parler du lien entre le cerveau et l'apprentissage, pour que les enfants comprennent qu'on peut contrôler, essayer de développer dans le cerveau certaines façons de contrôler les choix des stratégies que l'on vit. Et c'est notamment ce que l'on fait avec le groupe de l'Académie des sciences « Mon cerveau face aux écrans », sachant que ça sera le mot de conclusion. Vous me laissez 2 minutes encore? Ah d'accord. En tout cas, moi, c'est la prescription que je fais dans ce groupe de l'Académie Mon cerveau face aux écrans. C'est dire que tout ce que je viens de vous décrire, c'est plutôt le pan de droite du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il faut apprendre un certain contrôle exécutif d'inhibition et d'activation de stratégie, quel que soit le domaine que l'on apprend. Mathématiques, lecture, etc. Pour construire ces principes fondamentaux, objet, nombre, catégorisation, raisonnement. Mais il faut savoir, ça c'est le pôle, on va dire, inhibiteur, dont je vous ai montré quelques illustrations dans le cerveau, qu'en inhibant un premier réseau, une première stratégie, ça crée de la flexibilité et ça fait découvrir des solutions nouvelles. Mais il faut quand même savoir que notre cerveau est aussi très, très activateur et dès la naissance, et c'est la partie de gauche. Phénomène très connu, un bébé de quelques mois, vous le mettez bien face à vous, vous lui tirez la langue, il va peu à peu tirer la langue, moduler le rythme de la protrusion de la langue, vous ouvrez, vous fermez la bouche, il va changer de modèle et faire le poisson, ouvrir et fermer la bouche. Ce qui veut donc, c'est très bien, ça montre que d'emblée, le bébé humain, tout en ayant un cerveau très génétiquement programmé, cristallisé, est réceptif à l'apprentissage culturel humain. Il entre en résonance avec l'autre. Les travaux d'imagerie dans ce domaine que vous voyez ici ont révélé que chez le bébé et l'enfant, ou chez vous et moi, quand on imite ou quand on est imité, étonnamment, ce sont les mêmes réseaux de neurones qui s'activent, alors que ce sont des modalités d'action différentes. Et c'est l'une des grandes découvertes des neurosciences, on va dire sociales et affectives des dernières années, ce qu'on appelle le phénomène de résonance motrice. On entre, ce dont on pouvait se douter sur le plan phénoménologique, nos cerveaux entrent assez spontanément en résonance les uns avec les autres. Alors c'est bien, c'est formidable, c'est ce qui va créer l'empathie, la sympathie, le goût pour l'humain, et en même temps, je prends une expression un peu brutale, mais c'est dangereux, et notamment pour tout ce qui est numérique, et monde numérique, c'est-à-dire qu'on a une tendance, les réseaux sociaux, etc., notre cerveau a une tendance à entrer très rapidement en résonance avec l'autre. Il faut garder ça, c'est essentiel, c'est ce qui fait qu'on est très, très humain, très sociable, mais vous comprenez que par rapport à ça, ce que j'ai présenté avant, le contrôle inhibiteur, la capacité à prendre de la distance à la fois par rapport aux autres et par rapport à soi-même quand on a des stratégies et des automatismes, est capital et qu'il faut les deux. Et je pense qu'il faut penser la pédagogie numérique avec les découvertes actuelles du cerveau, pas que sur le mode activation-accumulation, mais aussi fortement sur le mode inhibition-tri-sélection, et ce qui est évidemment d'autant plus vrai que le numérique, comme tout le monde sait, multiplie les informations, apporte une complexité informationnelle qui rend le tri, la sélection et l'inhibition d'autant plus importantes. Le risque étant qu'on peut, en exposant les enfants, ils le sont de fait tout le temps aux écrans et au numérique, les rendre hyper fluides. Et il y a des recherches qui montrent qu'en effet, et surtout avec les jeux vidéo par exemple, il y a des applications positives qui deviennent très rapides, très switchers, ils parviennent très rapidement à identifier les cibles, éliminer les distracteurs, mais ils peuvent aussi devenir hyper fluides et plus du tout cristallisés, c'est-à-dire ne pas justement construire les choses en profondeur. Et donc il y a cette notion qui est de bon sens, je dirais, d'équilibre entre ces deux grands jeux de fonctions, mais néanmoins la pédagogie actuellement continue quand même de penser plus les choses en termes d'activation et d'accumulation, ce qui est très bien, il faut des automatismes, il faut cristalliser les connaissances. Il faut aussi penser les choses en termes d'inhibition au sens positif du terme, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire c'est une fonction exécutive qui permet d'être intelligent, qui donne la liberté au cerveau de trouver des solutions nouvelles. Et ce que je préconiserais déjà pour les écrans numériques ou la pédagogie numérique, c'est d'avoir des modules qui exercent à l'inhibition au sens défini ici, c'est-à-dire bloquer une réponse possible. Ça peut se faire en collectif. L'un peut inhiber une solution, l'autre une autre, et justement avoir des points de vue différents sur la même switcher. Et puis aussi, il faut les exercer à activer quelque chose qui devienne d'inhiber. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une inhibition définitive. Et ça porte aussi sur la normativité. Les choses ne sont pas pertinentes ou non. Hein. Quelque chose qui est hyper efficace à un moment donné, ou qui l'est très souvent, peut subitement ne pas le devenir et il faut s'y adapter. Alors je pense qu'on peut essayer, très modestement bien évidemment, de faire passer ces choses-là dès la formation initiale des maîtres, dans les écoles. On enseigne Piaget, pourquoi ne pas enseigner les théories néo-piagétiennes, et surtout la formation continue. Au niveau de la formation continue, on le fait déjà, nous, à titre expérimental, mais on peut imaginer, notamment via vos réseaux, quelque chose de plus systématisé.
L'inspection générale représentée ici, dans le public, donc c'est des notions que M. Philippe Claus pourra peut-être participer. Activer l'inspection. Mais elle est déjà proactive, faut pas sous-estimer.
Ah, j'avais terminé, jour. Merci de votre attention.
Qu'il y a peut-être là aussi des questions peut-être dans la salle. Merci de donner on donne quelques minutes à la salle pour peut-être quelques questions. Gérard Vidal.
Bonjour, je vous remercie de cet exposé qui est très brillant et je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de transmettre ces connaissances et ces réflexions. Le problème auquel on se heurte, c'est qu'on n'a pas un orateur comme vous, brillant, à disposition pour toutes les formations qu'on est susceptible de faire. Et sur l'IFE, justement, on a essayé d'avoir une réflexion pour essayer de créer un outil qui permette de transmettre tous les côtés imagerie, tout ce que vous avez montré avec des petites cartes, avec de l'anatomie. Et notre vrai problème, c'est d'obtenir finalement de la recherche des ressources qui permettraient de préparer cette transmission des connaissances vers les formateurs. Et ça rejoint une question qu'on a posée tout à l'heure que j'applique à ce sujet précis, c'est comment peut-on réussir à passer à l'échelle? Et est-ce que la stratégie de mettre en place un outil qu'on essaie de mettre à l'IFE est une bonne stratégie? Est-ce qu'on pourrait compter sur vous pour nous aider?
Je vous remercie. Il y a déjà des expérimentations en cours avec des réseaux d'écoles, je dirais d'une vingtaine d'écoles qui peuvent se généraliser dans différentes académies. Réflexion très politique que je faisais en aparté à Alain Madelin. J'étais très surpris, enfin tous les universitaires ont été heureux de voir pour les investissements d'avenir, le soutien apporté à l'université. On a compris le raisonnement pour lequel l'école n'avait pas besoin d'un tel soutien. Je me dis, c'est formidable si, dans la recherche scientifique universitaire, on pense bien à fortement soutenir le transfert des découvertes de sciences de l'éducation, de sciences des apprentissages, de neurosciences développementales vers l'école via des mécanismes que vous évoquez. Je ne suis pas convaincu que c'était totalement formalisé, pensé, anticipé, ni par l'ANR, ni par, même s'il y a sans doute des choses qui peuvent émerger. C'est capital. C'est capital parce qu'on peut, et sans doute avec des moyens relativement comparables, voire peut-être quelques dizaines de milliers de postes d'enseignants en plus ou en moins, on verra bien, mais avec des moyens plus ou moins comparables, on peut très simplement, parce que ce que je vous présente là, vous avez vu le carré avec les hachures ou sans les hachures, ça peut se faire avec les outils numériques qu'on a, avec le papier crayon qu'on a, et on voit que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous faites l'apprentissage sans cette composante d'inhibition, les individus restent dans leur réponse automatique, et ça reste la partie postérieure du cerveau qui s'active sans conscience de l'erreur. Donc, avec du matériel simple, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mettre des IRM dans toutes les écoles, ni avoir des chercheurs, ni des savants dans toutes les écoles. Pas du tout. Hein. C'est la même chose que des labos de biomédical ou médecine vers l'hôpital. Après, on peut imaginer des développements à grande échelle, mais il faut travailler sur la connexion, et je pense que c'est aussi l'un de vos enjeux, et l'outil numérique permet de faire ça formidablement. Il faut bien cibler les quelques éléments clés qui peuvent être déclinés en procédure pédagogique et utiliser l'outil qui est extraordinaire, que vous utilisez pour l'Afrique, qui peut s'utiliser pour tout autre pays. Mais il faut en effet une réflexion assez ciblée en amont.
Oui, professeur, ce qui nous intéresse, c'est les applications de tout ça, c'est formidable. Les applications, il y a a priori trois types d'applications, vous me direz si je me trompe. Les applications, bien évidemment, pour la formation, la connaissance de tout ce que vous nous dites par les enseignants lorsqu'ils se forment, mais il faut être capable de traduire ça en module de formation pratique et en rapport avec tel ou tel type de pédagogie. Le deuxième point, c'est, nous allons sûrement faire des choses ensemble en ce qui concerne le fait d'affûter les outils numériques qui sont les nôtres, hein, donc sur ce qui était dit tout à l'heure aussi sur la mémoire de travail qu'on sollicite immédiatement, l'inhibition, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a des outils d'inhibition à incorporer dans les outils numériques? Et lesquels? On avait inventé les moteurs d'interactivité pédagogique. Est-ce que nous avons des moteurs d'inhibition pédagogique? Je ne sais pas à faire. Mais ma question porte surtout sur un troisième point. Vous avez évoqué, au fond, j'ai bien compris, juste de deux mots, l'importance de comprendre les mécanismes de fonctionnement de son cerveau dans l'apprentissage, qui peuvent nous aider à apprendre. Et donc ma question, elle porte sur ce point. Peut-on imaginer, dans quelques temps, des modules tirant les leçons de ce que vous nous dites, de ce que d'autres disent, des modules, peut-être numériques, d'apprentissage à l'apprentissage? C'est-à-dire des modules qui apprendraient à mobiliser par l'exercice. Par exemple, le mécanisme d'inhibition ou d'autres choses. Est-ce une perspective crédible?
Oui. Oui, mille fois oui. Alors, bien sûr, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas tellement parlé, sauf quelques-uns, des contenus des apprentissages scolaires et des programmes, parce que là, il s'agit d'apprendre à apprendre et qui peut se décliner sur tous les domaines. Enfin, ce serait quand même extraordinaire que, et il n'y a pas besoin d'être spécialisé, je veux dire, il ne faut pas être un ingénieur en mécanique pour quand même comprendre qu'il est utile, quand on utilise une machine, d'avoir quelques notions. Pour le cerveau, peut quand même, le cœur de votre question, c'est la conscience réflexive. Et c'est ce qu'on a observé chez les enfants. On peut exercer la conscience qu'ils ont du fait que leur cerveau peut se tromper, mais qu'il peut bouger, que parfois on se laisse piéger par quelque chose, et quand vous montrez à l'enfant que ça peut activer une partie de son cerveau qui est plutôt sur les images, les formes, les couleurs, et une autre qui va plutôt être sur une règle logique, une règle mathématique, sans qu'il ait plus de connaissances spécialisées, c'est quand même une information extraordinaire que de savoir qu'on peut faire bouger son cerveau. Et c'est fort important aussi pour les éducateurs, parce que, bien sûr, quand on arrive à l'éducation nationale, au milieu de l'éducation nationale, ce domaine de recherche fait peur, et c'est normal, je le comprends fort bien. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est bien sûr le cerveau génétiquement, parce que pour l'enseignant, qu'est-ce qu'il se dit ? Le cerveau, c'est un organe super programmé génétiquement, qui a une maturation bien, qu'un bon calendrier. L'éducateur n'a plus rien à faire, il n'a qu'à attendre. C'est évidemment tout l'inverse dès l'instant où on perçoit la plasticité du cerveau. Parce que si le cerveau est aussi plastique, ça veut dire que l'interaction humaine pédagogique et via des outils numériques peut être formidable et en même temps peut aller dans tous les sens. Il y a quand même toute une réflexion actuelle sur les effets négatifs du numérique qui n'est pas à exclure. C'est une évidence. Mais contrôlons la chose, on va changer qu'à la marge l'exposition des enfants aux écrans. Il y a des campagnes, comme vous le savez, on débranche des ordinateurs pendant une semaine, c'est bien, symboliquement. On va peut-être pouvoir un tout petit peu diminuer l'exposition aux écrans pour qu'il y ait aussi des activités physiques, sportives, il y a tous les problèmes de santé, que vous savez, que le côté sédentaire, mais ça sera quand même à la marge. Donc autant essayer à travers cet outil d'exercer des fonctions telles celles que j'ai évoquées, la flexibilité, l'inhibition, etc. Donc, ça va être utile, je dirais, à un premier niveau et à un méta-niveau, ce que disait fort bien M. Madelin, ça entraîne une conscience réflexive sur comment fonctionne son cerveau. Tout comme on sait comment fonctionne notre corps sans être médecin spécialiste de chacun des... Et ça ouvre du potentiel. J'aime pas trop parce que c'est une notion qui a été utilisée, mais de plasticité cérébrale plutôt.
Encore une question dans la salle, si... Oui ? Qui prend le micro ? Vous pouvez dire qui vous êtes.
Serge Paronneau, IUT en ligne. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit. L'idée, c'est quand même ce que vous proposez, c'est une application au présentiel, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont, des enseignants qui vont être au contact des élèves. Est-ce que vous avez pensé à décliner vos propositions sur la fabrication de ressources pédagogiques numériques ? Par exemple, quand l'enseignant, lui, il sait à un moment donné, quand son auditoire se lasse, et il est capable de susciter un moment de motivation supplémentaire. Comment on traduit ça sur une ressource pédagogique numérique quand l'étudiant ou l'élève est face à un écran ?
On y a pensé, mais on ne l'a pas encore fait. Donc le transfert au numérique, je veux dire, c'est... Nous, on peut contribuer, c'est une réflexion qui peut se faire avec les spécialistes de la pédagogie numérique. On voit très bien, ça existe déjà, vous avez des warnings, par exemple, sur les systèmes numériques. Warning, vous êtes typiquement, nous, dans la littérature scientifique, ça s'appelle des warnings exécutifs. Quand on dit « fais attention au niveau verbal », des choses très simplement, ou que vous apparaissent parmi le répertoire des choix possibles sur un écran, un carré vide où tout est possible, tout est pertinent, ou un carré avec des hachures et une zone centrale de focalisation, on peut imaginer assez facilement qu'on peut en faire des applications numériques, avec ou sans présentiel, parce que le but, c'est de créer de l'autorégulation. Les fonctions exécutives, c'est de l'autorégulation. Alors, il y a un moment, sans doute, il faut du présentiel. Ça peut aussi être une interaction de tutelle à distance, et puis après, c'est de l'autorégulation.
Juste une dernière petite question. Est-ce que le maître enseignant peut devenir un maître de l'inhibition?
Alors, si elle est positive, pourquoi pas?
Si elle est positive, si elle permet d'avancer.
Voilà, vous avez bien compris qu'elle était positive.
Oui, vas-y.
Pardonnez-moi pour la créativité, monsieur.
Il y a
toute une série de chercheurs dans le laboratoire avec l'école des mines et la chaire d'innovation d'Armand Actuel qui travaillent sur le rôle de l'inhibition dans la créativité. On a toujours considéré que l'inhibition, c'était le contraire de la créativité. C'est évidemment le contraire du contraire. Il faut inhiber les automatismes, il a fallu inhiber le figuratif pour que l'art moderne arrive, etc. Et donc, alors, l'idée, on la comprend, mais après, il faut l'explorer finement et scientifiquement, voir comment, c'est ce qu'on appelle l'effet de fixation. Quand vous demandez à un enfant par rapport à un objet, un parapluie par exemple, bon, de dire un usage, il va donner l'usage classique, l'usage qui est fixé, cristallisé. Mais lui faire créer un usage différent exige évidemment une étape d'inhibition qui est cruciale. Donc au cœur de la créativité, vous avez ces mécanismes.
Juste un mot, toujours dans l'idée de mon méta-enseignement et de mes méta-exercices pour apprendre à apprendre, je suppose que bien évidemment, ce seraient des modules, un module pour la maternelle, un module à tel âge, je veux dire qu'il y a au moins jusqu'à un certain âge, et peut-être à partir d'un autre âge d'ailleurs, des modules adaptés à tous les âges de l'esprit, non?
Oui, alors là il y a deux niveaux, c'est-à-dire que ces fonctions exécutives d'inhibition, d'activation, etc., flexibilité, évidemment peuvent être apprises à tout âge et se déclinent à tout âge, mais ce qui va changer, c'est les stratégies cognitives sur lesquelles elles vont porter. L'architecture cognitive que je vous ai présentée au départ, on peut par exemple montrer que chez le bébé de quelques mois, dans la recherche d'objets disparus, la permanence de l'objet, le bébé va faire des erreurs d'inhibition, bon, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais il va aller rechercher des objets. D'accord. Après, pour la catégorisation, pour le nom, et le dernier exemple que je vous ai donné montrait que pour un module de raisonnement chez l'adulte, c'est là où l'adulte se trouvera en défaut d'inhibition. Vous, les jetons écartés, ça ne vous pose pas de problème d'inhibition. Un enfant de 7-8 ans, ça lui en posera. Donc, je dirais qu'il y a un côté invariant et récurrent dans ces mécanismes qui se déclinent à tous les âges de la vie, mais les contenus en termes de stratégie cognitive, voire d'éléments de programme scolaire, automatisme, heuristique, algorithme, les contenus, eux, vont varier selon l'âge, le niveau, la vitesse d'apprentissage des enfants. Hein. Tous les enfants ne doivent pas inhiber les mêmes choses au même âge. Vous ne m'avez pas posé de questions sur les enfants dits à haut potentiel, mais je peux vous dire un mot si vous le souhaitez. L'hypothèse que l'on fait à partir de cette analyse, c'est que très souvent, quand ils sont dans des classes mixtes, c'est-à-dire où ils sont un ou deux à haut potentiel, ils inhibent très vite. Ils ont très rapidement compris le piège, l'automatisme qu'il fallait inhiber. Très rapidement, il y a cette flexibilité. Ils donnent la bonne réponse, ils font le bon choix. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils ne sont pas synchrones dans leur capacité d'inhibition avec le reste du groupe. Donc le reste du groupe, il faudra un peu plus de temps pour inhiber. D'où ce qu'on connaît, c'est-à-dire ces enfants qui très rapidement vont être désocialisés, vont avoir des problèmes de rapport avec les autres. Et donc, ils vont toujours rapidement trouver la bonne réponse. Donc ils ont compris ce qu'il faut inhiber, mais vont faire semblant de ne pas inhiber. Et vous comprenez très rapidement la difficulté psychologique que ça crée. En revanche, et je pense que c'est un argument, pas tout le temps, mais pour d'importantes périodes, de les regrouper, parce que s'ils sont dans une classe commune, ils inhibent, ils activent à la même vitesse. Et donc ça permet d'aller plus vite. Ça n'empêche que le monde n'est pas fait que de surdoués, donc il faut aussi qu'ils soient dans des situations où ils doivent apprendre à fonctionner une vitesse différente des autres. Mais donc, cela pour vous dire que c'est aussi dépendant de la vitesse la vitesse de ces processus.
Merci et bravo. Merci. Je crois qu'on a tous apprécié l'apport. On a parlé hier des neuromythes avec Daniel Andler. Je pense que l'apport des neurosciences positives qu'on a entendu ce matin et qui va se continuer avec nos amis médecins de l'INSERM va nous apporter encore quelques compléments.